Rétrocrime Junior est un podcast présenté par Annie Richard, ancienne éducatrice spécialisée et auteure de plusieurs livres d'enquête à destination des jeunes, ainsi que Jean-Philippe Rousseau, son collègue d'enquête, également auteur aux éditions de l'Homme. Bien que Rétrocrime Junior soit un podcast destiné à un jeune public, une supervision parentale est recommandée. Pour plus d'informations, consultez junior.rétrocrime.com.
S'est demandé, moi et Jean-Philippe, c'est « Et si le squelette de Baie-Saint-Paul était celui d'un homme disparu depuis tellement longtemps que personne, en 1980, pouvait le savoir, en fait, pouvait se dire « Ah oui, il s'agit bel et bien de Télésphore, un tel, ça fait trop longtemps, on ne le recherche plus parce qu'on parle d'une toute autre époque. » On a donc fait l'exercice de chercher, et ça, c'est une autre de nos astuces enquête, de chercher dans les journaux toutes les disparitions qui sont survenues à Baie-Saint-Paul avec les indices que nous avions à notre disposition. Et ça, les archives de journaux, hein, Jean-Philippe, c'est une base de données disponible et gratuite pour tous.
Absolument. Grâce au site de la BANQ, dont on a parlé tantôt, la Bibliothèque nationale et Archives du Québec, qui nous permettent d'accéder à des, je voulais citer un chiffre, mais je pense que c'est pas possible, des centaines de milliers ou des millions d'articles et de journaux. C'est une base de données qui est incroyable, même si, comme tu le disais tantôt, les articles de journaux, il faut faire attention. Des fois, il y a des choses qui sont peut-être moins précises ou parfois erronées. On va essayer de les recouper avec des informations plus officielles et objectives, un peu comme le rapport du coroner, mais ça peut nous indiquer, dans le fond, quelle personne a disparu à telle époque et concernant certains critères, dans le fond, qu'on connaît.
Qu'on connaît déjà, exactement. Donc, ça a été un exercice intéressant parce que, bon, on cherchait un homme quand même âgé de plus de 50 ans, dont le décès faisait environ 70 ans. Donc, on cherchait un homme 50 ans et plus qui serait disparu ou décédé, disons entre 1800 peut-être, on aurait tissé plus large hein, pour être certain, entre la fin 1800 et 1920 environ. Donc, on a trouvé 5 candidats que nous allons analyser ensemble. Donc, je vous raconte la disparition en 1879 de Damien Caron, qui quitte Baie-Saint-Paul pour ne plus jamais donner signe de vie. En 1907, beaucoup plus tard, le frère de Damien tente encore de le retrouver en envoyant sa photo et sa description au journal La Presse. Toutefois, il y a des trucs qui ne collent pas entre Damien et le squelette de Caporet. Comme la description donne les noms des parents de Damien, on a pu le retracer en généalogie, une autre de nos astuces enquête, pour constater qu'il est né plutôt en 1849, ce qui lui donnerait que 30 ans environ lors de sa disparition et ou de son décès. De plus, on dit qu'il avait quitté Baie-Saint-Paul, donc il y a plus de chances que Damien se soit évaporé ailleurs complètement de la région. Les spécialistes ont estimé que le squelette était celui d'un homme décédé il y a environ 70 ans, tandis que la disparition de Damien remontait à un siècle.
Oui, puis là, ce qui est intéressant, c'est le côté généalogie. Ça, c'est un aspect du travail que l'on fait qui est très important parce que c'est très bien d'avoir des noms, c'est très bien d'avoir des personnes, mais il faut aussi s'assurer que c'est les bonnes personnes que l'on cherche. Il y a certains individus qui portent des noms qui sont très courants, par exemple, ou des prénoms qui sont très courants, et on pourrait les confondre avec d'autres personnes. Ou alors, on veut s'assurer qu'il s'agit d'une personne qui correspond à certains de nos critères, c'est-à-dire, comme c'est le cas là, de l'âge, c'est ça. Et pour ça, il faut retrouver des actes de naissance, Il y a aussi la possibilité de trouver les actes de mariage des parents, comme c'est le cas d'ailleurs.
Oui, et aussi, c'est aussi de retrouver, est-ce qu'on l'a retrouvé un jour? Est-ce qu'il est revenu au bercail? Parce
aussi,
que là, ça ne peut plus être notre squelette.
C'est ça. Si on l'a retrouvé vivant quelques décennies plus tard, bien, c'est sûr qu'il faut l'écarter d'emblée de notre liste.
De notre entonnoir. C'est ce qui nous permet de faire notre entonnoir. Donc, on utilise beaucoup l'outil de généalogie, qu'on retrouve d'ailleurs sur Généalogie Québec et Ancestry, qui sont des sites parfois payants, mais qui ont aussi des sections non payantes, tout dépendant c'est quoi les critères qu'on désire
tout à fait. On n'a pas accès à tous les documents dans la version gratuite, mais si vous voulez accéder à certains arbres généalogiques, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles gratuitement, oui.
Sur le site de la BINQ aussi, on a accès à beaucoup de données généalogiques gratuites. Maintenant, une autre étrange disparition, survenue cette fois, un peu plus tard à l'été 1901, Adjutor Morissette, un citoyen de Québec, qui devait embarquer sur un bateau avec des amis à partir du quai de Baie-Saint-Paul pour aller pêcher. Sûrement qu'il était là en vacances, villégiature. Une fois tous à bord, ses comparses réalisent qu'Adjutor est absent. Ils n'ont jamais pu faire la lumière sur les circonstances de sa disparition. L'hypothèse qui était la plus préconisée, évidemment, était qu'il soit tombé à l'eau lors de l'embarquement. Un peu étrange, mais quand même. Adjutor mesurait 5 pieds 3, portait une montre et une chaîne en or, ainsi qu'un jonc serti de diamants rouges. Ce qui nous donne un indice que ça devait être quelqu'un quand même fortuné.
Il avait un peu de l'argent, oui.
On sait aussi qu'il avait 40 ans, ce qui nous éloigne quand même un peu de l'âge évalué pour le squelette. Mm-hmm.
Oui, disons qu'il y a un bon 10 ans d'écart, mais ça peut être encore une possibilité, même si ce n'est pas la plus probable.
C'est ça, on y tirerait les liens, mais
absolument,
on ne peut pas l'écarter à 100%. À l'automne 1924, Joseph Gagnon, un vieillard de la baie des AA au Saguenay, moi je ne savais même pas c'était où, il a fallu que je regarde sur la carte. Il disait vouloir se rendre par ses propres moyens jusqu'à Baie-Saint-Paul, refusant même les opportunités d'embarquer en voiture ou de se faire héberger. Il se promenait avec une canne, donc on a un indice qu'il devait être quand même âgé, peut-être pas non plus, mais bon, et n'avait aucune provision sur lui. Le soir tombé, il faisait froid et on n'a plus jamais revu Joseph. Comme cet homme avait un projet, on va se le dire, là, quand même assez, même je dirais trop téméraire, parce qu'il y avait quand même 2 heures de distance en voiture entre son point de départ et sa destination. Ben, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Jean-Philippe, mais je trouve qu'il serait surprenant, selon ses données, que Joseph ait réussi son pèlerinage et que le squelette soit bel et bien celui de Joseph Gagnon.
Oui, absolument. Et puis surtout, pourquoi il serait passé par là, finalement? Tu sais, quelqu'un qui décide, même de façon très téméraire, de faire un parcours aussi long, on va le retrouver sur le bord de la route, au pire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, à moins qu'il se soit rendu, que finalement il ait accepté un voyage en voiture. Mais disons qu'on est loin.
Les probabilités sont quand même encore
surtout
plus faibles.
Qu'il avait un comportement peut-être un peu, je ne veux pas dire erratique, mais quand même, il décide qu'il part à pied et refuse.
Oui, c'est spécial.
À 2 heures de route d'un endroit, en plein.
2 heures de route, donc il faut s'imaginer qu'à pied, c'est beaucoup plus long, là.
Et voilà. Maintenant, à la fin décembre 1894, un nommé Marcel Côté disparaît de Baie-Saint-Paul d'une façon très controversée. Cet homme, on disait qu'il n'avait pas inventé la peau d'un canon. Ça, c'est une expression que je ne connaissais pas, qui date de fin 1800, je ne sais pas jusqu'à quand ça existait, mais c'était une façon pour dire qu'il n'était pas très intelligent. À cette époque-là, il faut dire que les journaux ne faisaient pas dans la dentelle quand venait le temps de donner une description des gens. Il ne serait jamais revenu d'une commission qu'il aurait fait au village pour aller chercher un remède pour son père malade. Par contre, il y a des rumeurs que Marcel aurait assisté à une réunion durant laquelle on l'aurait enivré, ça, c'est-à-dire qu'on l'aurait saoulé, qu'on lui aurait donné beaucoup d'alcool avant de disparaître complètement. On dit aussi qu'il persistait un silence d'or dans le village et qu'il y avait une inaction des autorités pour faire la lumière sur cette curieuse disparition. Le maire du village avait alors écrit une lettre ouverte au journal pour rectifier le tir. Il était choqué devant ces allégations-là parce qu'il précisait que Marcel est un faible d'esprit, qu'il n'a pas du tout l'alcool dans ses habitudes et qu'il était faux de croire que sa disparition n'avait pas été investiguée, que les policiers en fait avaient fait des fouilles. Il prétend que Marcel, c'était un homme aux idées suicidaires et que ses propres parents à lui n'avaient jamais pris au sérieux ses idées. Selon lui, Marcel, il s'est noyé dans la rivière du Gouffre, qui évidemment, comme on le disait au début, se jette dans le fleuve Saint-Laurent, et que peu importe les recherches que les autorités pouvaient faire, il serait impossible de retrouver son corps. Aucun détail sur Marcel Côté, sur son identité, son âge et tout ça, a été donné, sauf un seul article de journal. On ne sait pas si c'est erroné ou non, mais on dit qu'on le qualifie de jeune homme. Ce qui est encore une fois quelque chose qui ne corrobore pas avec notre squelette, qui aurait entre 50 et 65 ans selon les données. On a encore une fois utilisé la généalogie pour trouver les Marcel Côté de Baie-Saint-Paul. Évidemment, dans les recensements surtout, qui nous permettaient de voir tous les Marcel Côté à différentes époques, quel âge avait-il et tout ça. Puis, dans les années 1800, il y en avait trois potentiels Marcel Côté qui auraient eu lors de la disparition entre 48 et 61 ans, selon les trois Marcel différents. Ça en fait quand même un potentiel sujet d'intérêt pour les ossements, surtout considérant les rumeurs de peut-être malveillance envers cet homme et le fait que le squelette était quand même enterré.
Oui, puis moi, ce qui m'intrigue là, avec cette histoire, c'est la raison ou plutôt l'excuse, je ne sais pas comment expliquer ça, la justification du maire du village qui nous explique que dans le fond, il a dû se retrouver dans l'eau puis dans le fleuve, mais il n'a pas plus de preuves de ça. C'est le côté on a cherché et puis je trouve ça un peu bizarre comme réaction, tu sais, un peu comme pour se justifier. Nous, on a la raison de sa disparition, vous inquiétez pas, on a fait le travail. C'est ça qui m'a un peu gêné dans cette affaire. Je comprends qu'en tant que maire, il a été un peu piqué au vif par l'article du journal qui, dans le fond, démontrait ou montrait qu'il n'y avait pas eu de recherche pour le retrouver. Donc, peut-être que lui, il a voulu réagir et puis expliquer ça, mais c'est son explication en tant que telle. Je veux dire, il n'y a pas plus de preuves qu'il s'est retrouvé dans le fleuve. Tu sais, c'est un peu facile comme explication. C'est surtout pour ça que je voulais en parler.
Nous en venons donc à notre candidat le plus plausible de toutes les disparitions qu'on a dénichées qui sont survenues à Baie-Saint-Paul, c'est-à-dire celle d'Arsène Simard. On se replonge donc en juin 1899. Alors qu'Arsène, c'était un cultivateur bien connu, d'environ 65 ans justement, qui est parti avec sa femme pour aller récolter de l'écorce de bouleau près de la rivière des Morts. C'est un cours d'eau, en fait, qui se jette dans la rivière du Gouffre. Arsène vit dans le rang Saint-Gabriel de Pérou, près de la rivière, ce qui est un peu éloigné de Caporet, par contre, là, où on a retrouvé les ossements, mais quand même, on est quand même à Baie-Saint-Paul. Pour vous situer, là, la rivière des Morts dans ce coin-là, tout ça, c'est proche de l'actuel camping Le Genevrier à Baie-Saint-Paul. Selon les articles de journaux, le couple, c'est-à-dire Arsène et sa femme, ont pris des chemins différents durant un court instant dans le bois, c'est ce qu'ils appelaient le bois de Louisbourg, pour ensuite se perdre de vue. Mais comme Arsène est un peu sourd, il n'aurait pas entendu les appels de sa femme. Cependant, il y a d'autres articles qui racontent qu'Arsène serait parti seul et que sa femme s'inquiétait de ne pas le voir rentrer. Donc, on a comme deux versions différentes. D'articles de journaux, il faut se le dire. Mais quoi qu'il en soit, Arsène est disparu. Le surlendemain, il y a eu une battue organisée avec 50 personnes qui ont cherché l'homme. Mais tout ce qu'on a trouvé de lui, c'est des traces de son passage sur le bord de la rivière des Morts. Donc, il y a eu deux hypothèses qui étaient les plus préconisées, c'est-à-dire qu'Arsène s'est noyé ou encore qu'il s'est perdu dans les montagnes. Mmh. Est-ce qu'on a retrouvé mort ou vivant? On n'a rien trouvé, il n'y a jamais eu mention de cela dans aucun journal. C'est possible aussi qu'on n'ait pas accès. On n'a pas accès à tout. Donc, est-ce que ça a été nommé dans un ou deux journaux locaux qui n'est pas disponible en ligne? C'est possible. Donc, il nous restait la généalogie pour essayer de faire la lumière sur ça, mais malheureusement, il y a plusieurs Arsène Simard qui vivaient dans la région. Et chacun d'eux, c'est spécial, mais ils ont tous eu un parcours de vie très nébuleux puis un décès assez difficile à cerner. Donc, je ne peux pas m'assurer qu'il y ait le bon Arsène pour le moment. Il y a un détail qui nous interpelle, c'est les dents de castor qui ont été retrouvées sur le squelette. Qu'est-ce que ça peut bien indiquer? Parce que quand même, Arsène avait 65 ans en 1899. Est-ce qu'il utilisait des vieilles techniques pour remplir ses tâches? Les articles de journaux mentionnent qu'il était parti peler de l'écorce de bouleau. À certains temps de l'année, l'écorce se détachait plus facilement, puis c'était avec une simple incision apparemment, qui permettait de récolter des belles grandes feuilles qui peuvent même se coudre. Elles pouvaient être utilisées pour revêtir des toitures, pour faire des paniers, des chapeaux, servir à alimenter le feu, évidemment. Donc, l'écorçage permettait aussi au bouleau, dans certains cas, de le protéger des insectes ravageurs. Ça, c'est peut-être plus contemporain. Je ne sais pas si c'était le cas à l'époque. Je sais que toi, Jean-Philippe, tu as fait tes recherches aussi de ton côté par rapport au bouleau.
Oui, lorsque tu as trouvé des éléments sur justement l'écorce de bouleau, là, je me suis rappelé que dans le fond, il y a pas mal de choses dans l'arbre en tant que tel qui est utilisé. Peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais à une certaine époque, il y a certaines vertus, par exemple, dans le... pas l'écorce en tant que telle, mais plus dans la... ce que je vais appeler la chair, là, je n'ai pas le terme technique, on n'est pas des spécialistes, là, mais dans la chair de l'arbre, juste en dessous de l'écorce, qui peut être utilisée pour soigner certaines maladies. Il y a également la sève qui peut être utilisée comme antiseptique dans certains cas. Les racines, il faut savoir que... encore à l'époque de nos ancêtres, on utilisait beaucoup ce qu'on trouvait dans la nature, hein, que ce soit pour se nourrir, mais également pour se soigner. Puis cette technique d'écorçage, ça pouvait également servir pour l'utiliser pour des toitures. Tout était utilisé beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Oui, il n'y avait pas de perte, hein?
Il n'y avait pas de perte.
Et c'est grâce à des découvertes archéologiques qu'on sait aujourd'hui que les Autochtones utilisaient les incisives de castor justement pour travailler le bois. Et c'est ce qui nous a interpellés. Ils pouvaient même les munir de petits manches, ces dents de castor, pour en faire comme des petits couteaux. La dent de castor était pratique pour creuser, sculpter, gratter et évidemment peler le bois. Le problème dans notre histoire, c'est que c'était une pratique qui était courante à l'époque qu'on appelle de l'archaïque laurentien. Puis ça, c'est une époque qui date d'environ, là, j'y vais grosso modo parce qu'il y a différentes périodes du laurentien, mais ce serait là, d'environ 5000 ans avant aujourd'hui.
Donc, c'est très, très vieux. Puis moi, je te dirais, l'élément qui m'interpelle le plus, et puis justement, t'en parles, c'est que la plupart du temps, quand tu vas utiliser quelque chose qui vient de la nature ou d'un animal, comme des dents, quel que soit l'animal d'ailleurs, ou un os qu'on va tailler, etc., ça va servir pour le fixer à quelque chose d'autre. C'est-à-dire comme un manche, on va pas se servir directement et uniquement, mettons, de la dent. On va la travailler, on va s'en servir comme ornement pour un objet, on va en fabriquer un outil. Là, c'est vrai que ça n'est pas très clair non plus dans le rapport du coroner. C'est juste mentionné, on a trouvé des dents de castor avec les os. Mais dans quelle situation est-ce
Et à quelle proximité?
C'est ça.
Mais...
est-ce que c'était un outil ou est-ce que c'était quelque chose qu'il avait autour du cou? Je ne sais pas, moi, une sorte de collier. C'est difficile à dire.
Mais pour qu'il l'écrive, j'ai essayé de me dire que bon... probablement que c'était d'intérêt.
Oui, il devait avoir une utilité. Mais laquelle?
Mais comme ça fait longtemps que ça a été utilisé comme pratique courante pour peler l'arbre, mais que ça fonctionnait, par contre, pendant du temps des Autochtones, je me suis dit peut-être qu'Arsène avait des habitudes qui se seraient transmises après autant de générations.
C'est possible,
que c'est un peu étiré, mais quand même, peut-être qu'il était démuni à un point tel qu'il utilisait ce qu'il pouvait pour travailler. Est-ce que ça pourrait être le cas? Peut-être est-ce que c'était quelqu'un de marginal, quelqu'un qui avait une façon de faire qui était différente de ce qui était popularisé à l'époque?
Absolument. Puis c'est ça aussi une des difficultés et puis une des choses qu'on ne doit jamais oublier dans notre travail, c'est de se remettre dans le contexte de l'époque, mais aussi, justement, comme tu viens de l'expliquer, de partir du principe que chaque personne a sa propre personnalité, justement, son propre caractère, et que on fonctionne pas tous dans le même moule, on n'est pas tous faits. Quelque chose qui peut nous sembler bizarre pour nous, en plus aujourd'hui, à notre époque, peut sembler beaucoup plus courante et beaucoup plus normale à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle.
Oui, surtout qu'il faut quand même garder en tête qu'Arsène avait 65 ans en 1899 et qu'il vivait sur des terres. Hein. Il était un petit peu éloigné de ce que je pourrais appeler le centre-ville, admettons, de Baie-Saint-Paul. Puis en même temps, ben, est-ce que les dents de castor se sont simplement retrouvées là par hasard? Faut pas oublier qu'on est sur la terre ferme. Ce serait curieux un peu, quand même. On a fait le tour des disparitions qui nous interpellent le plus, ceux qui en font des potentiels candidats. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi des possibilités, que ce soit des catastrophes, si on peut dire, naturelles, des éléments naturels qui ont fait que peut-être le corps se soit retrouvé intact, comme ça, enterré. Elles sont peu probables, on va se le dire déjà d'avance, là, mais quand même, c'est parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Charlevoix, c'est une région qui est bien connue pour ses tragédies d'origine naturelle quand même. C'est souvent l'épicentre des tremblements de terre, comme ça a été le cas en 1870 et en 1925, avec quand même des hautes magnitudes, je ne me rappelle plus exactement combien, mais c'était des tremblements de terre qui ont fait la couverture du journal à l'époque. Ce qui semble moins probable dans tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucun décès ou disparition qui ont été liés à ces incidents-là. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui était tellement esselé, un genre d'ermite, puis qu'on n'a jamais retracé? Encore une fois, on étirerait un peu les liens.
Puis il faut se rappeler, puis je l'ai souvent entendu dans certains documentaires, qu'on ne meurt pas d'un tremblement de terre. On meurt des conséquences du tremblement de terre. En général, ça va être dans les villes, parce qu'il y a des effondrements. En plein milieu de la campagne, le sol va vibrer, puis c'est tout.
Oui, cependant, on est à Caporet, c'est falaisé, et il y a quand même aussi, et là j'en viens à ça, un historique des éboulis. Et là, ce serait peut-être pas nécessairement une conséquence de tremblement de terre, mais justement d'un éboulis qui peut survenir sans tremblement de terre.
Oui, tout à fait.
Glissement de terrain, en fait, aussi, qu'on peut appeler, je sais pas.
Après des fortes pluies, ça arrive encore de nos jours. Là.
Caporet est quand même un village qui est en bordure de falaises. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de risques d'éboulis et de glissements de terrain. Donc, on a cherché dans les archives, encore une fois, pour essayer de voir justement c'est quoi l'historique des éboulis, d'éboulements et tout ça qui sont survenus à Baie-Saint-Paul. Parce que dans un éboulement, je pense que ça peut être possible que quelqu'un soit enterré et que la nature reprenne son cours à un certain moment. Mais on n'est pas spécialiste, on le dit, là. Mm-hmm. On cherche des théories, puis on vous avertit que nous, c'est parmi des théories qui sont des fois plus ou moins plausibles, mais qu'on aime faire le tour quand même,
exactement.
Qu'on aime extrapoler chacune d'elles. Les incidents d'éboulement à Baie-Saint-Paul, il y en a eu entre autres, dans ceux qui sont plus notables, OK? En 1894, en 1918, en 1922, en 1924 et en 1936. Celui de 1936, d'ailleurs, il y a eu deux personnes qui ont été ensevelies vivantes, mais qui ne correspondent pas, par contre. On savait c'était qui.
Mais il y a des dates qui correspondent à peu près
vraiment,
à ce qu'on cherche. Hein?
Exactement, c'est pour ça que je les ai notées. Le squelette, est-ce qu'il a pu être victime d'une catastrophe naturelle? C'est peut-être pas une hypothèse à écarter, même si je peux pas dire que c'est ma plus plausible, en tout cas pour moi. Je sais pas
pourquoi. Non, puis disons, on a vu puis tu l'as rappelé, des phénomènes naturels, des catastrophes qui ont provoqué des morts, mais j'ai rarement vu des catastrophes naturelles déshabiller des individus.
Oui. Et ça, c'est s'ils étaient vraiment déshabillés, mais en tout cas, on n'a absolument rien qui nous indique présence de vêtements.
Absolument.
Un autre détail qu'on voulait investiguer, c'est le rôle foncier du terrain. Là, ça a l'air d'un sujet là, lourd, mais on va vous l'expliquer assez rapidement. Pour vous expliquer à quel point, nous, ça peut être très utile dans nos enquêtes, dans nos mystères, surtout dans ce cas-ci de la découverte du squelette. Parce que à l'endroit qui correspond à la découverte, c'était autrefois, puis c'est grâce au registre foncier antérieur qu'on a pu le trouver, au lot 268 et 270 de la paroisse Baie-Saint-Paul. Parce que s'il a été enterré d'une façon malveillante, s'il y a eu crime, en fait, on aimerait savoir à qui appartenait cette terre. Ça ne veut pas dire que ce serait la personne.
Absolument
qui serait...
pas.
Mais ça pourrait peut-être donner des indices, une certaine proximité, une zone de confort pour cette personne-là.
Disons que ça fait souvent partie de nos recherches, d'ailleurs, de savoir à qui appartient ou appartenait la terre. Et c'est en cela que le rôle foncier peut être intéressant. Qui était le propriétaire à l'époque du lot? Puis même si, comme tu le dis très bien, ça ne détermine pas une éventuelle responsabilité, ça rentre un peu dans la somme d'informations que l'on va collecter, puis on va essayer de les recroiser avec d'autres informations pour voir si on peut justement les exploiter.
D'ailleurs, j'ai trouvé un nom d'un des propriétaires de ce terrain-là, de ce rang-là à l'époque, qui fait partie des témoins au mariage d'un des Arsène Simard, quand même, tu sais. Chose que je n'évoquerai pas plus parce que je n'avais pas encore assez de données pour me permettre que c'était vraiment le bon Arsène Simard puisque j'avais trois candidats assez intéressants. Donc, le rôle foncier, on va premièrement essayer de le déterminer via d'anciennes cartes que l'on retrouve sur BANQ qui nous donnent les anciens numéros de lot, les anciennes seigneuries, les anciens rangs cantons. C'est pas toujours facile, mais en mettant la carte du jour de Google Maps satellite, contemporaine, on peut réussir quand même à essayer de faire des corrélations. Et ensuite, on va sur un site qui s'appelle le rôle foncier du Québec, qui nous permet d'aller dans des registres antérieurs une fois qu'on a réussi à trouver le numéro de lot actuel. Et là, on va dans l'historique de ce lot-là. Avec un peu de chance, on réussit à rentrer jusque dans les années 1800. Ce fut le cas ici. Il n'y avait pas encore de maison, selon moi, sur le lot lors du décès. À l'époque de la disparition d'Arsène Simard, c'est-à-dire en 1899, le terrain semble appartenir à Suzanne Lavoie, qui était veuve de Néré Asselin. Mais comme on ne sait pas quand elle est connue, s'est retrouvée là sans vie, puis que ce n'est pas nécessairement Arsène, bien, on ne peut que garder ces vieux registres-là jusqu'à temps qu'on déniche, Jean-Philippe, un autre indice à notre mystère.
Exactement, parce que nous, lorsqu'on travaille sur des cas dont on n'a pas encore établi clairement de réponse, eh bien, on les laisse ouverts et puis à l'occasion, on continue de creuser, on continue de chercher. Et des fois, en fonction des journaux, mettons, qui sont numérisés à BNQ ou de nouveaux indices, de nouveaux témoignages aussi, puisque comme tu le disais, il y a des messages que tu as laissés sur certains groupes Facebook, eh bien, on peut réouvrir une enquête, même si elle n'est jamais véritablement fermée.
On n'est pas la police, là.
On n'est pas la police, mais de pouvoir soit éliminer une des hypothèses qu'on avait avancées, soit en rajouter aussi, ou de peut-être même confirmer certaines informations qu'on a pu trouver.
Ça nous permet d'avoir l'espoir que le mystère continue, parce que des fois, c'est tannant un peu de ne pas trouver de réponse, mais c'est dans ça que c'est captivant, c'est le mystère qui nous amène à enquêter. Quand il reste des zones de mystère, ben il va nous rester toujours quelque chose à enquêter. C'est jamais terminé. Puis peut-être qu'un jour, on va vous revenir avec l'histoire du squelette de Baie-Saint-Paul.